Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, évaluation des opérations Kinyadeux au Nord Kivu par les commandants des forces de la MONUC, le général Bobakar Ngeri. Il a affirmé mercredi dernier que ces opérations connaissent beaucoup de progrès. Ensuite, rencontre mardi dernier à Kinshasa entre le Premier ministre, l'intersyndical et les syndicats indépendants de la fonction publique au sujet des cas litigés observés dans la dernière mise en place au sein de la fonction publique. Et enfin, tension à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le siège de cette institution provinciale est scellé depuis lundi dernier après une bagarre entre députés autour d'une motion sur le départ du président de cette Assemblée provinciale. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Paul Diakesté, il est directeur des informations à la radio-télévision Sangomalamu, émettant depuis Kinshasa. Rombo Otaba, il est journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal paraissant à Kinshasa. Et enfin, Christin Malula, il est directeur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Gemena. L'évaluation des opérations Kinyadeux au Nord Kivu par les commandants des forces de la MONUC, rencontre mardi dernier à Kinshasa entre le Premier ministre, l'intersyndical et les syndicats indépendants de la fonction publique, et la tension lundi dernier à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ce sont là les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Comment les différents journaux de Kinshasa ont traité ces sujets? Les détails dans cette revue de presse que nous présente Samuel Kakiaka.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette revue de presse, l'Observateur parle d'une évolution notable dans la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon le représentant spécial des Nations Unies en RDC, Alain Doss, cette avancée significative est le fruit d'une collaboration existante entre les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de la MONUC conclut ce confrère. Pour faire face à la crise à l'est du pays, un renfort des 200 casques bleus supplémentaires bangladeshis est déployé à Bounia en province orientale, dans la tempête des tropiques. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la rencontre entre le Premier ministre Adolphe Mouzito et l'intersyndical congolais. À ce sujet, la tempête des tropiques annonce que les ordonnances de Joseph Kabila au sujet de la fonction publique seront révisitées. Ce journal précise qu'à défaut de le faire annuler, une commission instituée pour relever les irrégularités espère obtenir les corrections de ces ordonnances présidentielles. Le Phare, de son côté, dénonce le fait que certains ministres soient nommés par ordonnance présidentielle fonctionnaires de l'État. Pour terminer cette revue de presse, parlons de la tension à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. À ce sujet, le palmarès parlant de la bagarre rangée entre députés provinciaux à l'Équateur considère cette situation de guerre des nerfs entre le gouvernement et le MLC qui accuse ouvertement l'exécutif national d'être derrière l'agitation qui s'observe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le potentiel de son côté parle d'une dérive politique qui soulève déjà un débat houleux entre les légalistes et les constitutionnalistes.
Merci Samuel Kakiaka pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Rombo Otaba, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment appréciez-vous le traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Merci pour la question. Moi, je pense que la presse a été à l'avant-plan, d'ailleurs comme d'habitude dans notre pays. Les journalistes ont été au front et vous savez que cette semaine, malheureusement qu'on n'ait pas retenu comme sujet de débat l'assassinat de notre confrère de la Radio Star mettant Bukavu. Donc cela prouve que la presse a accompli sa mission qui est d'informer, de la recherche des informations. Je ne vois pas quel est le sujet qui a été omis. En tout cas, bravo une fois de plus pour les confrères qui se sont acquittés de leur mission.
Oui, Paul Diakéfé, vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sangomalamou, émettant depuis Kinshasa. Y a-t-il, selon vous, une information sur laquelle votre rédaction Sangomalamou a insisté et qui n'a pas été mentionnée dans la presse de cette semaine? Et c'est vrai, Rombo Otaba vient d'évoquer l'assassinat de notre confrère Koko à Bukavu. Et vous, quelle est cette information sur laquelle vous avez beaucoup insisté, mais qui n'a pas été évoquée dans la presse?
C'est l'assassinat du confrère Bruno Koko sur un visa. On a beaucoup insisté sur ça et on est revenu avec le mot de Chantal Kanimbo, la présidente du NPC. On a aussi interrogé le ministre de la communication. Alors ça, on n'a pas mentionné. Et nous, on a beaucoup insisté là-dessus parce qu'on s'était dit bon, aujourd'hui c'est Koko, hier c'était deux autres confrères, peut-être que demain ça sert à moi ou ça sert à toi. Alors c'est comme ça qu'on a estimé qu'il était important d'y revenir même 3-4 jours après cet assassinat.
Oui, Christophe Maloula, vous êtes directeur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Guémena. Comment votre rédaction canal Congo Télévision a analysé la tension à l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Là, c'est juste un petit commentaire, hein, on n'est pas encore entré dans le détail.
C'est justement une décision fatale pour cette Assemblée provinciale qui n'est pas au premier coup. Ce sont des hommes politiques qui ont été mandatés par la population. Et aujourd'hui, qui se distingue en marre, c'est simplement une déception, comme je l'ai dit au départ. Et on ne voit pas comment ils vont sortir de ces trous, ils sont plongés parce qu'ils sont manipulés d'un côté par le politicien. Et d'un autre, ce sont des appétits politiques de l'Assemblée provinciale elle-même. C'est vraiment une désolation pour le peuple de l'Équateur.
Merci. Nous allons passer à notre premier thème de la tribune de ce soir. Évaluation des opérations Kinia 2 au Nord Kivu par les commandants des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye. Il a affirmé que ces opérations connaissent beaucoup de progrès. Plusieurs points forts des FLR sont désormais sous contrôle des FRDC. C'est ainsi que le général Babacar Gaye s'est exprimé mercredi dernier à Goma à l'issue d'une mission d'évaluation des opérations Kinia 2. Il s'agissait d'évaluer tous les aspects de ces opérations, notamment en ce qui concerne le nombre des FDLR rendus et rapatriés dans leur pays, le Rwanda. Le commandant des forces de la MONUC reconnaît la volonté des FRDC de mettre fin au phénomène FDLR. Il a dit au micro des Sifa Maguru.
Ils sont mesure les difficultés que rencontrent les FRDC, notamment en termes de soutien, de retard dans le paiement de salaire. Il est clair qu'il y a de leur part un engagement qui est réel. Il y a vraiment une volonté de régler ce problème des FDLR. Ensuite, il y a sur le terrain, dans le Nord Kivu, des progrès qui sont à noter également, dans la mesure où il y a des zones qui étaient tenues par les FDLR, qui étaient vraiment des points forts qui aujourd'hui sont entre les mains des FRDC. Même s'il reste encore, notamment dans la zone de Wadi Kale, Ntoto, qui est au sud de Kibwa, des regroupements des FDLR, mais c'est l'intention des FRDC de traiter ces poches. D'une manière générale, il faut convenir qu'il y a eu des progrès réalisés dans cette action contre les FDLR.
Paul Jacquesse, votre réaction par rapport à ces bilans dressés par le commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye?
Mais écoutez, ça va vous surprendre. J'ai toujours été sceptique, face au bilan, au rapport qui vient de l'Est. C'est comme ça que je n'ai pas partagé le point de vue de l'observateur, qui en fait est revenu aussi à ce que la MONUC a donné comme information. Bon, il est vrai que notre pays est en guerre, ça faut le connaître. Nous sommes en guerre au Kivu, nous sommes en guerre à la province orientale, et que pendant la guerre, l'information est toujours difficile à donner d'une façon objective, hein, parce qu'il faudra ménager secret d'État et autre chose. Alors, ma difficulté réside au niveau où nous, en tant que journalistes, nous n'avons pas cette indépendance, c'est-à-dire personne. Peut-être qu'au capi le sait, mais comment arrive-t-il à aller au-delà de ce que la Monique veut que le capi voit? C'est-à-dire, je pense qu'il faudra qu'on me donne la liberté, moi en tant que journaliste, que j'aille faire un reportage sur ce qui se passe à l'Est, pas seulement se contenter au bilan officiel, au bilan de commandement, etc. Non, parce que si on nous dit que l'évolution est notable, mais il y a des populations qui sont déplacées et qui ne sont pas encore retournées chez eux. Il y a encore des milliers de Congolais qui sont en RCA. Alors quand l'évolution est notable, à quel titre parce que c'est pas le fait qu'on ait arrêté un responsable d'Espeller qui signifie qu'il est aussi notable. J'ai toujours l'impression, sans pour autant accuser un peu de déformer l'information officielle sur la situation de l'Est, j'ai toujours pensé que nous n'avons pas donné la vraie information qu'il faut. Il va falloir que d'une façon indépendante, que les médias aillent faire des reportages librement pour donner la vraie information.
Et qu'est-ce qui empêche aux médias congolais d'aller sur terrain pour recueillir l'information?
Bon, il y a beaucoup de paramètres, hein, des paramètres que nous maîtrisons et des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Parce que même aux États-Unis, un pays très démocratique depuis très longtemps, les Américains n'ont pas permis aux journalistes américains d'aller par exemple en Irak pendant la guerre du Golfe, ou même maintenant, il y a plus d'informations qui sont tamissées avant que cela puisse passer. C'est un peu dans cette optique-là. Il y a beaucoup de paramètres, Mathé, pour aller librement faire l'information. Il faut des moyens, il faut être autorisé par l'autorité congolaise, il faut avoir les titus des extérieurs ou les titus qui sont émis dans notre pays afin d'être là, pas comme Congolais, mais comme un journaliste qui fait un travail normalement. Et encore que, si jamais on a ces informations, est-ce qu'on renoue la liberté de les diffuser, c'est comme ça, dans nos médias qui sont chez nous? Donc, il y a beaucoup de paramètres, Mathé, raison pour laquelle j'ai toujours été sceptique et réservé à tous les comptes rendus, à toutes les informations officielles, que ce soit de la Monique, excusez-moi, nous sommes à Okapi, mais je parle de Monique. J'ai toujours été réservé, écoutez, en tant que journaliste, donc je l'ai dit librement aussi, Mathé.
Oui, Romo Taba, Paul Diakessé est sceptique par rapport au bilan adressé par les commandants des forces de la Monique. Et pourtant, votre journal, l'Observateur, a fait écho de ces informations.
Écoutez, je voudrais d'abord corriger une petite erreur de la part de mon confrère Paul. L'Observateur n'a fait que répercuter les déclarations du général Babacar.
C'est pas une erreur quand même. Alors, c'est pas une erreur.
Comme vous le dites vous-même, les journalistes congolais ont des difficultés. Effectivement, le journal L'Observateur a un correspondant à Goma, et vous savez que cette partie-là de l'Est est devenue un enfer aujourd'hui pour les journalistes. Donc, il n'est pas aisé à notre correspondant de Goma d'entrer dans le champ de bataille pour nous faire un reportage plus ou moins objectif.
Mais avant de publier ces informations, vous n'avez pas appelé les correspondants à Goma pour vérifier la véracité de ces informations qui ont été émises par les commandants de la Monique?
Bon, dans les cas d'espèce, bon, vous savez comment ça se passe lors du briefing hebdomadaire de la Monique. Donc, notre journaliste qui a été accrédité à la Monique n'a fait que répercuter cette nouvelle-là.
Donc, c'est pas une erreur, je ne fais pas ce constat.
De toutes les façons, bon, maintenant, c'est mon analyse personnelle, dire que être sceptique ou quoi, mais de toutes les façons, nous devons reconnaître que la situation actuelle n'est pas comme elle était avant. Voilà. Nous devons le reconnaître. Mais moi, je pense que d'ailleurs, quand il y a la paix quelque part, personne de censé ne peut s'opposer, ne peut être mécontent. Je pense que la paix, c'est à quoi tout le monde aspire. Mais pour ce qui se passe dans la partie est de notre pays, moi, je pense qu'au lieu de se contenter de nous endormir avec des rapports, de cette nation, de ce genre, hein, de déclarations, moi, je pense qu'il faut s'attaquer au fond. Il y a cette partie-là, justement, quelles sont les causes qui provoquent ces conflits récurrents dans cette partie de la République démocratique du Congo? C'est ça, il faut y aller au fond.
Quelles sont les causes?
Moi, pour moi, personnellement, de mon analyse, il ressort qu'il y a fondamentalement le manque de démocratie qui est à l'origine de tous ces conflits. Et ici, je ne parle pas particulièrement de la RDC, je parle de tous ces pays-là, des voisins, particulièrement les Rwandais. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ils prétendent dire qu'on a vaincu l'FDLR. Bon, je ne sais pas si on ne se fait pas d'illusion, parce que c'est un phénomène aujourd'hui, tant que les Rwandais ne vont pas se démocratiser.
Au Rwanda, les institutions sont ici des élections.
Moi, je pense que, pour revenir à mon analyse, il faut que Kagame comprenne que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est comparable à ce qu'il a condamné aux autres. Donc aujourd'hui, il faut qu'il instaure la démocratie au Rwanda.
Dire qu'au Rwanda, il n'y a pas de démocratie, ça s'engage que vous. Hein?
C'est mon analyse en tant que journaliste. Moi, voilà. Je ne peux pas avoir peur d'exprimer mon opinion. Mais en tout cas, je crois que je ne suis pas le seul à faire
ces constats. Revenons au bilan traité par le général Babacar Gaye. Et en fait, selon le rapport de la section de la MONUC en charge des mobilisations et rapatriements des ex-combattants des DRRR, jusqu'au 25 août dernier, environ 12 000 ex-combattants et civils rwandais ont été rapatriés dans leur pays. Ce chiffre, selon vous, ne confirme-t-il pas les bilans dressés par le général Babacar Gaye? Parce que 12 000 personnes, c'est quand même beaucoup.
Oui, mais 12 000 par rapport à quel chiffre? Il faut qu'on nous dise d'abord combien de l'air ont été identifiés. Et si les 12 000 là constituent une goutte d'eau dans la mer, qu'est-ce que vous allez dire? Nous ne sommes pas impressionnés par ce montant-là, par ce chiffre-là de 12 000, ça ne dit rien. S'ils étaient 50 000, 60 000, et 12 000 par rapport à ce chiffre-là, qu'est-ce que ça signifie quoi? Moi, je pense que c'est ça, le fondamental, c'est de créer un espace de démocratie, de liberté, où les Rwandais peuvent se sentir à l'aise chez eux, au lieu d'être tout le temps en train de errer dans la nature et de provoquer des crimes comme ils le font actuellement.
Et Crispin Maloula, quelle est votre analyse à ce stade de débat?
Merci de l'opportunité que vous m'accordez, du matin. Moi, je pense, à mon humble avis, que notre pays aujourd'hui n'a plus besoin de discours. Notre peuple de l'Est a plus besoin de la paix que quoi que ce soit. Nous savons tous que c'est depuis très longtemps que les forces oniviennes sont dans notre pays. Et toutes ces forces sont déployées à l'Est du pays. Et depuis que ces forces sont déployées, ce sont le malheur, ce sont les tueries, ce sont les déplacements. Les enfants ne vont plus à l'école, les parents ne sont plus calmes. Et c'est la misère au plus comble. On doit se poser la question de savoir pourquoi la présence de toutes ces forces. Aujourd'hui, Babacar Gaye est en train de donner un bilan positif. Ce n'est pas pour la première fois que la force onusienne parle d'un bilan positif. On a écouté ça lors de l'opération, des opérations communes entre le Rwanda et le FRDC. On a dit que ces opérations avaient complètement réussi. Et pourtant, c'était chaos. À la fin, on a vu. On a tué des villages entiers. On a vu, on a saccagé, on a pillé, on a violé. Aujourd'hui, on parle d'un succès. Mais quel succès qui sera éphémère?
Pourquoi pensez-vous que ce succès sera éphémère?
Même éphémère, parce que quand on a fait les premières opérations, on n'a pas attendu 2 mois pour qu'on parle de tuerie. On n'a pas attendu 2 mois pour qu'on parle de viol, pour qu'on parle de massacre. On n'a pas attendu 2 mois. Et pourtant, ils avaient dit qu'il y a eu un bon nombre de Rwandais qui étaient capturés, qui se sont rendus personnellement, qu'on a rapatriés au Rwanda. Et ceux qui avaient tué les gens-là, où est-ce qu'ils étaient? Et ceux qui combattent aujourd'hui, où est-ce qu'ils étaient? Nous pensons tout simplement que si la force onusienne, en coalition avec le FRDC, c'est d'abord un problème de volonté. S'il y avait une volonté ferme de bouter hors du territoire congolais, tous ces amis des antivaleurs, tous ceux qui cherchent à nuire au peuple congolais, la chose serait faite. Moi, je pense que les amis onusiens ont justement l'intérêt de se pérenniser au Congo. Parce que tous les États qui sont en train de passer chez nous, imaginez ce qui se passe.
Christian Maloula, est-ce que vous savez qu'il y a des opérations en cours, des opérations conjointes FRDC-MONUC contre les FDLR?
Oui, bien sûr.
Oui, mais cela ne vous rassure pas.
Mais rassurez, c'est pour la première fois qu'il y a des opérations conjointes. Il y a eu des opérations conjointes dans tous les fronts. Est-ce qu'il y a eu la paix qui est venue? Celle-là ne me donne aucun espoir. Je reste vraiment pessimiste. Il n'y a pas d'espoir. Ils vont aller, à un certain moment, ils vont s'arrêter. Pour eux, les Onusiens doivent continuer à rester chez nous pour que notre pays continue à alourdir ses dettes et que notre peuple continue toujours à souffrir.
Ça va mal que vous, hein?
Non, je l'ai dit en âme et conscience, c'est un problème de volonté. Qui est la démocratie au Rwanda ou non, ça ce n'est pas notre problème. Je pense que le gouvernement congolais a le rôle, a la mission, de sécuriser les frontières, l'intégrité territoriale à partir du gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, parce que nous compérons avec les forces du monde, il était autant opportun que des opérations utiles soient menées de façon à bouter hors du territoire congolais, tous ces éléments négatifs qui contribuent au mal-être de notre peuple.
Justement, les opérations sont en cours.
Les opérations sont en cours, Guy Maté, je le répète, ce ne sont pas les premières. On en a parlé, on a parlé de beaucoup de succès, mais qu'est-ce qui arrive à la faire? Nous attendons voir, mais moi, rien ne me rassure, rien, plus rien ne me rassure, peut-être que l'histoire me donnera raison demain.
Pour le DKC, vous continuez à rester pessimiste?
Le voir pessimiste, c'est surréaliste. D'abord, je me réjouis parce que Rombo m'a rejoint. Donc, quand il a parlé de l'erreur, c'est pas une erreur, puisque si l'Observateur publie à 100% ce que la Monique a dit le mercredi, mais ça m'étonne que tout à l'heure, il conteste les chiffres donnés par la même source. Donc, je crois qu'il m'a rejoint, je suis très content, c'était pas une erreur. Peut-être que c'est lui qui a mis ses mots dans sa bouche. Je crois que, Maté, nous sommes journalistes et nous ne sommes pas politiciens. Nous ne sommes pas ici. Notre rôle n'est pas de passionner les débats, de passionner nos discours. Je crois que nous, ce sont les faits qui nous intéressent, les faits. Comme l'a dit notre collègue de Mbandaka, je crois qu'il faut pas. C'est pas ici où il faut développer une certaine xénophobie contre les Rwandais pour justifier ces sources-là. Non, nous, ce sont les faits. Moi, je me dis, je suis réaliste. Notre pays est en guerre. Dans une information officielle, il y a toujours ce qui est dit, et aussi des non-dits, que ce soit de la Monique, que ce soit de notre commandement de l'état-major, que ce soit de qui que ce soit. Là, c'est officiel, ce qui n'est pas officiel. Et ces signes, aussi longtemps que nous, en tant que journalistes congolais, n'aurons pas la liberté ou cette facilité d'aller faire l'investigation, même faire un reportage sur le terrain, nous allons gober des informations qui peuvent ou qui risqueraient demain de se contredire. Raison pour laquelle, lorsqu'un mercredi, la Monique dit que voilà, l'évolution est notable, ça, ce sont des termes très diplomatiques à prendre avec beaucoup de réserve.
Et qu'est-ce que vous envisagez pour obtenir cette liberté?
Cette liberté, je crois que ça ne viendra pas sur un plateau d'or. Nous sommes prêts à y aller. Je félicite un collègue, un confrère, qui il y a 3 ans, qui est parti interviewer Kunda Bantouare dans son fief. Et il est revenu vivant. Donc je crois que si nous pouvons aller au-delà, aller à l'Est, librement enquêter, sans être envoyé par les officiels congolais, sans pactiser avec les estellaires, mais faire son travail de journaliste, c'est seulement à ce moment-là que nous aurons maté des vraies informations. Peut-être qu'en ce moment-là, on trouverait de bonnes solutions pour que la paix soit à l'Est. Pour le moment, ne parlons pas encore de paix, ne parlons pas des évolutions notables, pendant qu'il y a des populations, c'est toujours en déplacement à l'Est. Voilà un peu mon analyse, tant soit peu, un peu, je vous trouvais pessimiste, mais elle n'est pas pessimiste, elle est réaliste.
En mot d'abord.
Oui, mais confrère Mathieu, moi je voudrais m'adresser particulièrement à M. Paul, pour dire que je pense que nous, les journalistes, comme vous l'avez bien dit, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous pouvons aider nos politiciens à trouver des solutions qui s'imposent face à certaines situations. Moi, je pense qu'ici, que notre rôle ne peut pas se limiter tout simplement à aller sur le terrain, faire des reportages, dire que non, là-bas, effectivement, ça ne va pas, la guerre, la situation humanitaire est catastrophique, mais nous devons proposer des pistes de solutions. C'est ça, je pense.
Et quelles sont ces solutions que vous proposez?
C'est ce que je dis, malheureusement.
Non, c'est ça, je dis dans les cas d'espèce ici.
Voilà, on veut savoir quelles sont les solutions que vous proposez pour justement mettre fin à cette situation d'insécurité à l'est du pays.
Non, pour moi, par exemple, moi, à l'endroit du gouvernement congolais, moi, je pense que tant que nous n'avons pas une armée forte, puissante et dissuasive, nos frontières vont continuer à demeurer poreuses et nous allons toujours subir les affres des conflits des pays voisins, surtout du Rwanda. Et dans le cadre de la CPG, moi je pense qu'il faut qu'on trouve un modus vivendi pour dire que l'accès au pouvoir ne peut se faire que par des voies pacifiques, par des voies démocratiques.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Rencontre mardi dernier à Kinshasa entre le Premier ministre, l'intersyndical et les syndicats indépendants de la fonction publique au sujet des cas litigieux observés dans la dernière mise en place au sein de la fonction publique. Après la marche empêchée par la police anti-émeute le 21 août dernier, l'intersyndical national du secteur public et le Premier ministre Adolphe Mouzito autour d'une table. Cela s'est passé mardi dernier à Kinshasa. Au menu, les dernières ordonnances du chef de l'État portant nomination, révocation et mise en retraite des agents de l'administration publique. À ce sujet, une commission mixte paritaire sera bientôt mise sur pied. Objectif, traiter de tous les cas litigieux résultant de ces ordonnances. Les détails avec Jeff Ngoy.
La commission paritaire primature intersyndicale sera créée par un décret du Premier ministre. Selon l'intersyndicale, elle devra revisiter les ordonnances présidentielles et examiner tous les cas de recours. Joseph Kodibaza, rapporteur général de l'intersyndicale nationale du secteur public, estime que le ministre de la fonction publique, Michel Botoro, a induit le chef de l'État en erreur en procédant aux nominations fantaisistes dans l'administration publique et doit être sanctionné. Tenez, le 16 août à la place Golgotha, l'intersyndicale dénonce plusieurs irrégularités contenues dans les ordonnances présidentielles, notamment le manque de titularisation des cadres commissionnés depuis des années avant la mise en retraite, le cumul des fonctions des ministres avec celles d'un agent de la fonction publique. Michel Botoro s'est fait nommer directeur ainsi que ses collègues de sport Soulidika Matiembele et le vice-ministre du budget Alain Lubamba, recruté au numéro 143. Botoro rétorque. Il affirme qu'il est en détachement au cabinet des ministres après avoir présidé dans l'administration publique depuis 7 ans. Pris de colère, les syndicalistes sont enfin descendus dans la rue le 21 août pour exiger la correction des ordonnances. À la gare centrale sous le boulevard du 30 juin, certains d'entre eux ont été interpellés par la police anti-émeute qui a interdit la marche. Pour couper court à cette gronde, Adolfo Mosito vient d'initier le dialogue.
Merci. Christophe Malula, quelle lecture faites-vous de cette situation dans la fonction publique?
C'est vraiment désolant, très très désolant, que la présidence de la République ne soit pas dotée d'une administration aussi efficace.
Et c'est la première fois. C'est vous qui le dites, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire que la présidence de la République n'est pas dotée d'une administration efficace?
Mais vous l'avez dit dans vos commentaires tout à l'heure, vous avez dit que la décision ou l'ordonnance, les ordonnances présidentielles seront révisitées. La décision du président, c'est une décision suprême. C'est que les décisions ont été examinées, mûries avant d'être prononcées. Voilà. Je dis tout simplement que ceux qui entourent le chef de l'État sont en train d'élinguer en erreur chaque jour.
Est-ce que vous avez des preuves?
Je l'ai dit, écoutez mon ami, je l'ai dit, j'ai des preuves. Je donne par exemple l'exemple d'un médecin, un jeune médecin qu'on va retraiter, d'un médecin qu'on va révoquer sans un dossier préalable. Nous sommes dans l'administration. L'administration, c'est le monde de papier. Avant de révoquer quelqu'un, il y a d'abord un processus à court. Il y a de blâme, il y a de mise à pied, il y a des suspensions. Mais il n'y a plus rien. L'homme a son dossier tout blanc. Je prends l'exemple d'un médecin de notre province. Il est à Mbandakati, le docteur Rebois. Voilà. Donc, on va le révoquer sans aucun motif valable. Il est révoqué pourquoi? Et c'est un homme qui a servi le gouvernement pendant très longtemps. Moi, je pense que notre administration devra se doter de beaucoup de moyens pour qu'après, ces erreurs ne se refaitent pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont servi le pays depuis des années? On les envoie à la retraite. Qu'est-ce qu'on a prévu pour leur paiement? Ils vont toucher quoi? Alors que nous avons les codes du travail, nous avons notre constitution. Quelqu'un qui a servi le pays, s'il arrive à la fin de sa carrière, on doit les payer normalement. Et peut-être qu'il n'avait jamais eu une maison, peut-être qu'il habitait la maison de l'État. À la sortie de ses fonctions, il doit se trouver un endroit où poser la tête. Il doit quand même vivre comme un homme qui a servi le gouvernement, comme un homme qui a servi le pays. Ce n'est pas pour des intérêts politiques, parce que tel est de telle obédience politique, il faut mettre son nom parmi les personnes révoquées.
Nous avons reçu récemment les directeurs des cabinets adjoints du ministre de la fonction publique et qui nous a annoncé que les personnes qui ont été mises en retraite seront payées incessamment.
Ça se passe comment? Le jour où on annonce la retraite de quelqu'un, on l'invite, on lui paye, je m'appelle ça les comptes finales. Ce n'est pas que vous mettez quelqu'un en retraite, il ne va plus au bureau, il n'est pas payé à la fin du mois, il doit attendre incessamment. Incessamment, ça va prendre combien de temps? C'est ça d'abord. Donc, je dis tout simplement que c'est une façon vraiment abusive de travailler. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réformer l'État.
Merci.
Donc, il faut vraiment passer par l'eau, pas de réforme. Ces réformes doivent être objectives et au bénéfice de tout et chacun. Aujourd'hui, si on doit privilégier une catégorie de personnes, parce qu'ils ont, qu'ils sont des telles obédiences politiques, aujourd'hui, je pense que si les Congolais, aujourd'hui, sont en train de voir les choses de cette manière-là, ça n'ira pas. Il faut pas qu'on crée des malaises sociaux inutiles dans le pays. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Rombo Otaba, les 3 août dernier dans l'émission Dialogue entre Congolais, le ministre de la fonction publique, M. Michel Botoro, avait rassuré que toutes les procédures avaient été respectées pour la mise en retraite et les révocations. Mais pourquoi, selon vous, on assiste à toutes ces revendications si toutes les procédures avaient été respectées selon le ministre Michel Botoro?
C'est archi faux. Vous savez, monsieur, nous parlons aujourd'hui des 5 chantiers de la République. Je pense que les chantiers les plus importants, et je ne sais pas comment les qualifier, les 0e chantiers, c'est ça justement ce que M. Botoro vient de mettre sur la place publique. Les antivaleurs. Vous savez, on ne peut pas faire la politique en dehors de la morale et de l'éthique. C'est terriblement grave ce que ces ministres-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par antivaleur?
Mais justement, le fait, vous savez que la fonction publique dans notre pays est régie par une loi qui portait statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Et aujourd'hui, même si ce texte-là est périmé, parce que en principe, je ne sais pas pourquoi les différents ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère depuis l'arrivée de l'Abdeljus à ce jour n'ont pas encore actualisé ce texte-là, mais il y a des dispositions fondamentales qui restent. Il y a la procédure, comment on recrute un agent à la fonction publique et comment on le met à la retraite, comment il avance en grade. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a jamais été recruté puisse se retrouver un jour comme ça, parce qu'il est dans une institution de la République?
Vous avez des cas, vous pouvez les citer.
Mais celui du ministre de la fonction publique. Il faut qu'il dise quand il avait été recruté, parce que pour faire partie de la fonction publique, il faut d'abord être recruté. Et on est recruté.
Selon son directeur de cabinet adjoint, que nous avons reçu récemment dans l'émission de l'Europe congolais, les ministres de la fonction publique et fonctionnaires comme tous les autres fonctionnaires, il a travaillé dans la fonction publique depuis plus d'une décennie.
Oui, mais c'est ça. Vous savez, l'humilité élève l'homme. En certaines circonstances, quand vous savez en votre fort intérieur que vous avez mal agi, la meilleure des choses, c'est de se taire ou carrément de demander pardon. Je vous dis, il y a des procédures à suivre pour faire partie de la fonction publique. On est recruté et on ne peut pas recruter à la fonction publique dans un grade de commandement. Le grade le plus élevé où on peut recruter à la fonction publique, c'est être un attaché de bureau de première classe.
Merci.
Or, il n'a jamais été recruté à TB1 ou à TB2 quand il a été nommé chef de bureau, quand il a été nommé chef de division. Donc, s'il vous plaît, monsieur, parce que c'est très important ce point-là, parce que tant qu'on ne moralise pas la vie politique dans notre pays, tant que l'éthique n'est pas à l'avant-plan du comportement de nos politiciens, les autres chantiers ne peuvent pas réussir. Et moi, je pense qu'en ce moment où nous sommes en pleine campagne de tolérance zéro, il faut que le chef de l'État saisisse la balle au bon pour sanctionner ces cas-là. La corruption ici, c'est pas seulement voler l'argent ou quoi, mais c'est un acte de corruption flagrant.
Pour les casser, comment faire pour prévenir ce genre de situations?
Moi, j'ai pitié de nos ministres, de tous nos responsables, du chef de l'État, parce qu'en fait, nous sommes une étape où nous fondons notre État, parce que l'État n'existait plus. Nous avons connu 2 pillages très graves pour le pays. Nous avons connu l'entrée de l'AFDEL où tout a été brûlé, tout a été bousillé, il n'y a même pas d'archives. L'administration était complètement paralysée au point qu'on ne peut plus retrouver, je ne sais pas si on peut encore retrouver ma fiche de naissance. Et ça, c'est grave pour un État. Et à côté de cela, il y a encore la guerre qui nous guette, il y a la crise financière. Donc, la tâche n'est pas facile pour nos ministres, pour le président de la République et pour tous ceux qui ont une passée responsabilité. Cependant, il y a des choses qui sont inacceptables quand même, Maté, puisque lorsque les ordonnances doivent être révisitées, c'est un terme qui tique un peu. Le président, quand même, c'est le numéro 1, c'est le magistrat suprême. Donc avant que le président ne signe un document, ça signifie que ce document est passé par plusieurs mains, plusieurs yeux, on a revu la ponctuation, on a tout vérifié, et quand lui va signer, on peut le révisiter. Alors s'il faut révisiter l'ordonnance signée par le chef de l'État, ça signifie que toute la chaîne à travers laquelle est passé ce document il faut qu'il y ait des sanctions ou des démissions, pourquoi pas. Et ça, c'est très grave lorsque nous voulons fonder l'État. Et je crois que dans le cas des ordonnances, et comme ça tombe bien à l'obtolérance zéro, mais c'est une occasion de saisir la balle au bon pour que le tolérance zéro commence par ceux-là qui ont amené ces documents, qui en fait qui est une bombe à retardement, parce qu'ils ont pour les chefs de l'État, devant la population, qui disent, excusez-moi, j'avais signé rapidement, on va aller voir ça. C'est pas bon, c'est pas décent pour notre pays. Et enfin, ces ministres qui sont au nom de l'administration, et pourtant, lorsque l'ordonnance de nomma ministre a été sortie, ça a abrogé les dispositions antérieures. Et aussi, dans les ordonnances de nomma des fonctionnaires, ça abroge les fonctionnaires. Ça signifie que même les ordonnances de nomma comme ministre sont abrogées. Et ils continuent d'être ministres. Mais ce n'est pas parce que le ministre passe à la radio ou il fait un point de presse, qu'il parle d'une façon inatérale, qu'il a raison. Et ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sûrement par la honte, devaient sûrement se taire, comme l'a dit Rombo. Mais dans tout ça, considérons ça comme le douleur d'enfantement de notre état de santé mentale construite. Mais quand même ça, il y a des flagrances qui ne peuvent pas passer, Mathieu.
Merci, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Nous passons à notre troisième thème de ce soir. Tension à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le siège de cette institution provinciale est scellé depuis lundi dernier après une bagarre entre députés autour d'une motion sur le départ du président de cette Assemblée provinciale. Cette décision du ministre de l'Intérieur du gouvernement central de mettre sous scellé les installations de l'Assemblée provinciale de l'Équateur suscite au grave incident survenu lors de la séance plénière de lundi dernier, séance qui s'est terminée par une bagarre entre députés. Régine Beaucoup nous en donne les détails.
Actuellement, une trentaine de policiers montent la garde des installations de l'Assemblée provinciale de l'Équateur en Bandaka. Certains députés contactés approuvent la décision du ministre de l'Intérieur du gouvernement central de placer sous scellé les locaux de l'Assemblée provinciale. Toutefois, ils estiment que cette décision a été prise selon eux à la hâte. Pour rappel, les trois dernières séances plénières de l'Assemblée provinciale de l'Équateur avaient connu une agitation inhabituelle et s'étaient toujours terminées en queue de poisson. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase hier lundi reste le rejet par les députés du projet d'ordre du jour par 37 voix contre et 28 pour. Les députés majoritaires souhaitaient que l'on inscrive à l'ordre du jour l'examen de la motion incidentielle du député Lofandé, motion qui selon eux était restée en suspens vendredi dernier. Cette motion demandait le départ du président de l'Assemblée ainsi que les autres membres du bureau permanent au motif qu'ils se sont octroyés des indemnités de sortie alors qu'ils sont encore en poste. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, la motion du député Lofandé était devenue sans objet. Ces explications n'ont pas convaincu la majorité des députés. Ça n'a alors suivi une vive tension entre des élus du peuple. C'était sans même aller jusqu'à s'échanger des coups de poing. Débordé, le président a demandé à la police de faire sortir deux députés particulièrement agités, l'honorable Lofandé et Mwamba, ce qui n'a fait qu'augmenter la colère des députés favorables à la motion incidentielle. Un désordre généralisé a alors gagné l'hémicycle. Pour une raison non encore élucidée, un policier a dû tirer à l'air dans la salle, créant ainsi une panique générale.
Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, le regroupement des parlementaires de l'Équateur accuse ouvertement le gouvernement central d'entretenir cette situation. Députés nationaux et sénateurs de cette province sont unanimes. Le pouvoir central alimente la crise institutionnelle à l'Équateur avec une intention de voir Jean-Claude Baïndé assumer l'intérim du gouverneur de province de manière illégale jusqu'à la fin du mandat en cours. Et au sujet de la fermeture de cette assemblée provinciale, ces parlementaires exigent la levée immédiate de la mesure du ministre de l'Intérieur. Crispin Maloula, vous êtes, je rappelle que vous êtes directeur de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Guémena, vous êtes dans la province de l'Équateur. Votre réaction?
Il y a à manger et à boire dans ces dossiers.
C'est-à-dire?
Je dirais d'abord que c'est le gouvernement central qui est à la base de tout ce qui s'est produit dans la province de l'Équateur.
Comment?
Cette province est passée dans le rang des oubliettes. Il y a d'abord cette province qui est passée pour une orpheline. Et depuis plusieurs temps, cette province n'a jamais eu un gouverneur, pour des raisons que nous ignorons complètement. Le docteur José Makila était en justice. Aujourd'hui, on a pratiquement acquitté tous ceux qui étaient impliqués dans les dossiers. José Makila n'est toujours pas rentré. Si ce n'est pas José Makila qui ne rentre pas, on n'organise pas des élections pour avoir un autre gouverneur. Un suspense persiste. Pour quel motif, en effet? Et ensuite, si José Makila est tombé, c'est tous les gouvernements qui tombent. Et on voit alors les vice-gouverneurs se pérenniser avec tous ces ministres. est une irrégularité administrative trop grave entretenue par le gouvernement central. Donc, somme, tu dirais, à l'Équateur, il n'y a pas de gens qui voient, à l'Équateur, il n'y a pas de gens qui lisent la Constitution, à l'Équateur, il n'y a pas de gens qui comprennent les choses. C'est une marginalisation trop, trop grave. Alors, s'agissant de l'Assemblée provinciale, je pense que ce sont les élus du peuple, ce sont des gens qui ont été élus, mandatés par nous pour représenter la province, pour décider de l'avenir de cette province, pour légiférer les lois qui vont devoir régir cette province. Mais ces députés ne sont pas les premiers coups. Pour la première fois, ils ont créé un bicaméralisme parlementaire, sans aucune loi conséquente. Ils l'ont fait, c'est leur pays. Alors, ils se sont référés à quel document pour créer ce bicaméralisme? Aujourd'hui, ils vont un peu plus loin jusqu'à se battre, même s'il y avait des problèmes. Les intellectuels, les politiciens de leur rang, le rang qu'ils occupent, ils ne devaient pas humilier la province à ce niveau-là. Et moi, je dirais tout simplement que ce sont des manœuvres politiciennes qui ont pour objectif de pérenniser les uns au pouvoir au détriment des autres.
Merci.
Tout simplement, qu'on essaye de mettre fin à cette situation en remettant l'administration provinciale de l'Équateur en place. Qui est gouverneur? Si c'est Makila qui doit rentrer, si c'est Makila rentre, s'il n'a pas de problème en justice, qu'il rentre. Si ce n'est pas Makila qui ne rentre pas. Mais qu'on organise des élections, la CILA, que l'Équateur puisse se doter de son gouverneur.
Merci, Christophe. Rombo Otaba, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous analysez la déclaration des parlementaires originaires de l'Équateur qui accusent le gouvernement central d'entretenir cette situation à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Et ce matin, je voudrais d'abord faire une observation pour dire qu'il n'y a rien à dramatiser dans ce qui s'est produit à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, en pleine séance plénière, les députés de la Corée du Sud en sont venus aux mains, dans l'enceinte, en pleine séance plénière. Rappelez-vous encore que pendant la mémorable conférence nationale souveraine, il y a des conférenciers dire que je cautionne ce genre de comportement. C'est condamnable, moralement et purement c'est condamnable, mais il ne fallait pas dramatiser la situation pour dire que vraiment le ciel va tomber sur l'Équateur à cause de ce comportement-là. Toute l'Assemblée est bien régie et réglementée, il y a un règlement d'ordre intérieur. S'il y a des députés provinciaux de l'Équateur qui se sont mal comportés, je pense qu'à mon avis, il était simple et facile de recourir au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et condamner le fauteur des troubles. Mais ce qu'on nous semble oublier ici dans la déclaration de notre confrère, tout a été envenimé par les coups difficiles tirés par les policiers. Je pense que là aussi, c'est symptomatique du comportement de nos hommes en armes. Est-ce qu'ils comprennent ce que coûte une cartouche pour la maîtrise publique? Alors je pense qu'il ne faut pas que ces gens-là utilisent l'arme qui est mise à leur disposition de n'importe quelle manière. Alors pour revenir à la déclaration des députés de l'Équateur, moi je pense que il condamne le comportement du gouvernement central par rapport à ce que notre confrère de Guéména vient de dire,
Christian Maloula,
cette situation-là de vide juridique doit trouver une solution et le plus tôt possible. Parce que si cette tension-là, si ce vide-là persiste, il y a des frustrations et ces manifestations se traduisent par ce genre de comportement.
Paul Jacquetri, qu'est-ce que vous proposez pour décanter cette situation?
Je risque même de ne pas parler parce qu'il y a plus de temps. Je crois qu'il ne faut pas trop politiser l'affaire. Deuxième observation, tous les députés de l'Équateur, tous ne sont pas contre ce que le ministre de l'Intérieur a fait, et que le débat n'est pas autour de José Makila, le débat c'est autour de rémunération que le président a eu, mais aussi, je pense que nous n'avons encore rien vu, hein. Ce n'est que le début de la démocratie et que ça, c'est un problème qui arrivera. Je vois que le ministre de l'Intérieur, en le faisant, a sauvé la situation, peut-être. Il ne faut pas trop politiser ce débat. Dommage que je passe des temps, il y avait encore des choses que j'allais dire.
Merci. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Eric Diakala était à la technique, Céline Couté à la réalisation, assisté de Samuel Kachak, Alain Irung et Jean-Claude Toumba-Kamanga, et devant ce micro Guy Massé. Merci, je vous souhaite bon week-end sur Radio Okapi.